vendredi.
Alors, on vient de m'apporter, semble-t-il, photocopie de sujets qui concernent ce cours pour ceux qui doivent procéder à l'évaluation, c'est-à-dire dont le cours fait partie de la validation de...
Validation.
Oui. Oui, bon, bah, donc validation du cours. Donc, il y a deux questions qui sont indiquées. Vous choisissez celle que vous voulez, ou éventuellement, si vous vous sentez en verve, vous prenez les deux. Et voilà, donc les papiers sont là pour ceux qui doivent les prendre, avec les indications sur la date avant laquelle vous devez apporter vos petits papiers. Et puis ensuite, ça me sera scanné et envoyé pour que je puisse confirmer les affaires. Voilà. Bien. Donc, nous avons abordé un petit peu l'ensemble général de la compréhension du psychique et du spirituel, nous avons évoqué un certain nombre d'exemples, et je vous propose d'en creuser un autre qui a sa face positive et sa face négative. Il s'agit du sentiment de culpabilité. Puisque ça a à voir avec le péché et donc avec le mystère du salut, mais c'est un lieu qui est souvent, d'un point de vue subjectif, assez confus et qui peut mériter aussi soi-même de mettre les choses au clair quand on est beaucoup dans la culpabilité, soit éventuellement d'aider les personnes à décanter des sentiments de culpabilité qui ne sont pas toujours forcément très ajustés. Alors, non pas que ce sentiment de culpabilité soit a priori une pathologie, puisque quand on a effectivement commis un péché, c'est tout de même normal de se sentir coupable. Hein, donc, c'est normal de se sentir coupable quand on est coupable, en gros. Hein, c'est plus problématique quand, effectivement, ce sentiment de culpabilité n'est pas ajusté. Soit qu'on se sente coupable de choses dont on n'est pas coupable, soit qu'on se sente très coupable de choses dont on est peu coupable, soit qu'on ne se sente pas assez coupable de choses dont on est très coupable. Voilà, donc on a une question qui touche au rapport entre ce sentiment de culpabilité et l'existence effective d'une faute. Et puis, ensuite, la façon dont ce sentiment de culpabilité donc, peut représenter une difficulté ou au contraire peut représenter une énergie propulsive pour s'approprier plus en profondeur le mystère de la miséricorde et du pardon de Dieu. Alors, une première chose, donc, c'est qu'il faut, de ce point de vue-là, distinguer pour unir, c'est-à-dire vous avez la question du péché qui regarde la qualification d'un certain nombre de nos actes libres que nous posons et qui nous mettent en rupture avec Dieu ou qui blessent la relation avec Dieu parce que sont des actes qui vont contre son appel, contre sa volonté, contre son amour. Et avec un côté d'autant plus dramatique que Dieu, de son côté, ne fait que nous aimer. Et donc, il y a quelque chose qui a priori, ressemble à une trahison de Judas dans tout péché. C'est-à-dire, nous blessons celui qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Donc, il y a ce rapport au péché. Mais il arrive dans une certaine littérature psychopastorale qu'on recherche une sorte de purisme théologal, comme si le sens du péché n'avait rien à voir avec le sentiment de culpabilité. On veut en quelque sorte purifier ce sens du péché que la tradition théologique appelle la contrition, avec le purifier de toute connotation de sentiment de culpabilité. Or, ou alors en sens inverse, vous avez aussi des tendances, alors là c'est plus des difficultés personnelles, à confondre le sens de la culpabilité et puis l'existence effective d'une faute. Donc on confond les niveaux et du coup on ne mesure son péché qu'à l'intensité de son sentiment de culpabilité. Ce qui n'est pas juste, hein. Comme on l'a vu, c'est un des nombreux cas où finalement, au lieu de se fier à la vérité des choses, on se fie juste à ce qu'on ressent, on vit au feeling, quoi. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, l'Écriture n'est pas du tout ni dans la confusion, parce qu'on voit des textes très clairs où justement, il faut qu'émerge véritablement la faute pour dissiper des choses plutôt confuses ou ambiguës du point de vue du sentiment de culpabilité. Et puis on n'est pas non plus dans une sorte de purisme spiritualisant dans lequel le sens du péché n'aurait rien à voir avec le sentiment de culpabilité. Alors pour cela, je vous renvoie éventuellement à toutes sortes de textes qui sont très évocateurs de ce point de vue-là et qui décrivent bien l'expérience liée à la culpabilité. Vous avez évidemment le récit du premier péché, le péché d'Adam et Ève, hein, et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus et ils se cachèrent. Alors j'allais dire, excusez le très mauvais jeu de mots, parce que leur cœur n'était plus cachère, mais bon. On est le matin. Il est 9h10, les brumes du sommeil ne sont pas totalement dissipées, et donc on peut oser une horreur pareille. Bien. Donc la nudité, la peur de se cacher, qui dans le récit concerne assez directement la sphère sexuelle, hein, c'est porter ou non des vêtements, donc... être nu, du point de vue aussi physiquement, du point de vue des organes sexuels. Et donc, se produit ce sentiment de honte, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce récit sur le péché d'Adam et Ève, eh bien, on peut dire en quelque sorte que dans le premier état qui est celui de la nudité innocente, eh bien, il y a donc un état qui est un état d'harmonie à tous les plans, c'est-à-dire ça concerne aussi bien l'harmonie avec Dieu, de ce Dieu qui est l'ami d'Adam et Ève, au point de vouloir de temps en temps aller les visiter en se promenant dans le jardin à la brise du soir. C'est mignon comme tout ça, enfin, Dieu qui se promène dans le jardin à la brise du soir. Hein, donc ça relève d'une sorte de relation donc, sans problème des hommes vis-à-vis de Dieu. Vous avez l'harmonie dans le rapport à la création, puisque précisément autour d'Adam et Ève, il y a un jardin qui est une création harmonieuse dans lequel ils sont bien. Et dans lequel ils peuvent être nus aussi, donc pas de danger. Donc c'est... Et puis, vous avez une harmonie qui concerne le rapport Adam et Ève, appelés à devenir une seule chair et ne vivant aucune honte d'être nus l'un devant l'autre. Donc on a une nudité innocente... qui s'explique par une conscience, par une confiance fondamentale, c'est-à-dire la personne peut être nue, a priori la nudité pourrait faire penser à la vulnérabilité, mais si le regard de l'autre est un regard qui est totalement bienveillant, aimant et respectueux, eh bien, il n'y a plus de danger à être nu. Vous avez des choses un petit peu du même ordre qui s'expérimentent, par exemple, dans la nudité de l'enfant, dans son rapport à sa mère qui prend soin de lui, par exemple. Hein, et où la nudité n'est pas un problème parce que, même si le corps fragile et vulnérable de l'enfant est exposé, il n'est exposé qu'au regard totalement aimant de sa mère. Et donc, sur la base d'une confiance, les éventuelles peurs liées à la vulnérabilité n'existent pas. Et c'est ce que peuvent, par ailleurs, dans le développement d'un amour authentique entre époux, c'est en quelque sorte aussi ce qui se reconstitue, en quelque sorte, de cette possibilité d'être nu l'un devant l'autre et de le vivre comme dynamique de confiance et de communion plutôt que de peur et de difficultés. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, c'est tout l'ensemble de ces harmonies qui va se trouver perturbé par le péché. Donc évidemment, la première relation harmonieuse touchée, c'est la relation avec Dieu, puisque le péché, par essence, vient blesser la relation avec Dieu, voire la rompre. Et donc, quand Adam et Ève se cachent, ils se cachent aussi de Dieu. Mais ça perturbe aussi la relation de l'un avec l'autre, puisque c'est aussi, ça devient une honte dans le regard que l'un porte sur l'autre et vice-versa. Donc, ils se cachent l'un de l'autre pour être protégés d'un regard qui, comme Dieu va le décrire à Ève en particulier par la suite, va être un regard marqué de concupiscence et de violence, de domination. Et puis, ils vont se trouver désormais aux prises avec un monde cruel, donc qui n'est plus spontanément en harmonie avec eux. Hein, donc c'est tout ce qui concerne le rapport à la terre, à travailler, à la sueur de son front, les chardons et les épines. Et on peut de ce point de vue-là aussi interpréter la nécessité de se couvrir comme une nécessité de protection par rapport à désormais à une nature qui peut prendre un caractère agressif. Donc nous avons là quelque chose de très intéressant parce que ça renvoie à la fois à une expérience extrêmement concrète dans les rapports avec le monde, le rapport avec les autres, etc. Et puis en même temps, à la source, il y a un problème fondamental qui est celui du péché. Et d'un péché donc qui suscite cette peur d'être que la faute, si j'ose dire, soit nue, exposée comme la nudité au regard de Dieu. Donc il y a une peur et donc un réflexe d'autoprotection et de fuite de ce Dieu qui pourrait regarder ma faute. Avec une crainte qui touche même à la peur d'être détruit par ce regard de Dieu sur le pécheur. Ce sont des thèmes qui sont présents sous certaines expressions bibliques. Vous voyez par exemple la question de la colère de Dieu. Et la colère de Dieu, c'est lié à cette idée que face au pécheur, Dieu en colère, disons une colère humaine, c'est déjà explosif, mais si c'est une colère divine, c'est-à-dire une violence infinie, elle risque de tout écraser sur son passage. Et c'est quand même très présent. Saint Paul, quand il nous parle du salut, nous dit que nous avons été sauvés de la colère, par exemple. Et on trouve déjà dans l'Ancien Testament cette conviction que sous un certain angle, la présence de Dieu peut être dangereuse pour la vie. Vous voyez, toutes ces règles de protection pour s'approcher de Dieu sans risquer d'en être foudroyé, qu'on trouve dans l'Ancien Testament, ce sont des peurs qui renvoient à cette expérience d'un Dieu qui est tellement disproportionné, puis aussi qui est tellement saint devant le pécheur, que le pécheur ne peut pas tenir sous son regard. L'homme lui-même, déjà naturellement parlant, quand l'Écriture nous dit que nul ne peut voir Dieu sans mourir, on est aussi dans ce type de vérité, c'est-à-dire d'une disproportion radicale entre Dieu et l'homme, qui est déjà une disproportion liée à la finitude de l'homme devant Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai que le rapport entre le fini et l'infini, c'est zéro. C'est-à-dire que si l'homme est devant Dieu, il est zéro. Là, je parle d'un strict point de vue, disons, d'une comparaison des êtres. C'est ce que disent les métaphysiciens quand ils disent aussi que Dieu et la créature ne sont pas nombrables. Alors, ils ne sont pas nombrables, ça veut dire que si vous avez Dieu plus la créature, en fait, ça n'est pas plus que Dieu tout seul. Donc, c'est-à-dire la créature compte pour zéro. On est zéro devant Dieu. Si on prend au sérieux que Dieu est Dieu, on est zéro devant lui. Or, ce qui crée chez l'homme une situation qui est très paradoxale, puisqu'en même temps, Dieu, comme dit saint Augustin, nous a créés pour lui, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en lui. Donc il y a une insatisfaction du cœur de l'homme à l'égard de toutes les réalités créées, parce qu'en fait, le cœur de l'homme a soif de Dieu. Mais le paradoxe, c'est que, d'un strict point de vue naturel, quand l'homme envisage la possibilité de rencontrer Dieu, ça serait son anéantissement, à la fois parce qu'il est créature, donc zéro devant Dieu, et en plus parce qu'il est pécheur, c'est-à-dire la relation que Dieu avait tout de même mystérieusement créée entre l'homme et lui, l'homme lui-même s'est chargé de la détruire par son péché. On peut ajouter éventuellement, ce serait une autre manière de dire, mais qui peut expliquer pourquoi il y a en quelque sorte cette terreur de Dieu de la part du pécheur. Hein, on peut dire finalement, Dieu nous a créés pour son amour. Si nous renions cet amour, nous renions la raison même pour laquelle Dieu nous a créés. Et donc Dieu serait en droit de nous anéantir. Alors il serait en droit d'eux. Hein, et ce qui est donc toute cette question du statut de la colère de Dieu, puisqu'à terme, l'homme, dans le projet du salut, normalement est appelé à échapper à cette colère, à être libéré de cette colère. Mais il faut prendre conscience de ce que c'est que la situation naturelle du pécheur, c'est-à-dire quand on ne prend pas encore en considération le fait que gratuitement Dieu soit venu nous sauver dans son fils, en son fils. C'est-à-dire le pécheur, dans sa situation naturelle, il est en danger d'anéantissement par rapport à Dieu. Or, c'est devenu source d'angoisse chez beaucoup de gens, ces affaires-là. C'était, par exemple, c'était le travail, c'était le problème qui taraudait Luther. Peut-on être vraiment juste devant Dieu? Alors ensuite, il a essayé de trouver une voie de sortie qui n'était peut-être pas forcément la bonne. Mais à la base, il y a une interrogation qui est quelque chose dont la racine est profondément à la fois biblique, mais en même temps rationnelle. C'est-à-dire ça touche à la question de savoir si on prend au sérieux que Dieu est Dieu, et que nous ne sommes que nous. C'est-à-dire, en fait, tout ce que nous sommes en positif est participation de l'être de Dieu. Donc ça ne se rajoute pas à Dieu de l'extérieur, ça ne peut exister qu'en tant que participation à l'être absolu de Dieu. Mais du coup, quand on s'envisage, non pas dans cette situation de participant de l'être de Dieu, mais dans quelque chose qui toucherait à une relation avec Dieu, c'est-à-dire ce qui nous met face à lui. Donc c'est la question. Voir son visage, c'est ça, c'est être savoir si on peut être face à face avec Dieu. Et a priori, c'est insupportable. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. C'est le fameux épisode de Moïse qui demande à Dieu, à force de le fréquenter, il demande « Fais-moi voir ta face ». Et Dieu lui dit « Je vais te cacher dans un creux de rocher, je mettrai ma main, et puis je passerai, j'écarterai un peu ma main, et tu me verras, mais tu ne me verras que de dos, parce que de face, on ne peut pas me voir. » Et vous avez un certain nombre d'expériences comme ça, de manifestations de Dieu, où ensuite la personne ayant fait cette rencontre avec Dieu se dit « Mais c'est bizarre, j'ai rencontré Dieu et je ne suis pas mort. » Normalement, j'aurais dû mourir. Comment c'est donc possible? Voilà. Et donc, dans la question de la faute, il se joue quelque chose d'extrêmement violent en réalité. Ce n'est pas simplement qu'on se sent un peu mal. C'est qu'il y a véritablement, on mérite, notre péché, normalement, fait que nous méritons la mort. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Hein, si vous péchez, vous mourrez. Si vous mangez du fruit, vous mourrez. Et la condition mortelle de l'humanité est liée à sa condition pécheresse. Hein, si vous relisez Romains 5, les versets 12 à 21, vous verrez le lien très fort que Paul fait entre le règne du péché et le règne de la mort dans l'humanité. Donc on peut dire le sentiment de culpabilité, il a cette racine-là, objectivement parlant. Il est lié à cette condition humaine, à la fois de créature face à Dieu et de péché, qui font que devant Dieu, a priori, quand on est pécheur, on devient même coupable d'exister, si vous voulez. Parce que notre existence n'a plus sa motivation, du point de vue de Dieu. Alors, ensuite, vous avez un certain nombre d'épisodes significatifs. Par exemple, ça vaut la peine, du point de vue de l'analyse du sentiment de culpabilité, de regarder la différence entre le roi Saül et le roi David. Parce que l'un sera rejeté et l'autre non. Alors que tous les deux sont pécheurs. Saül l'est pour avoir désobéi à Dieu concernant le traitement des butins de campagne militaire, hein, qui auraient dû être entièrement détruits et dont Saül réserve une part. Et puis David, avec le fameux épisode du péché de David, donc l'adultère avec Bethsabée, suivi du meurtre par personne interposée, du mari de Bethsabée, Uri le Hittite, ou alors encore cet autre péché de David où il est question d'un recensement d'Israël qui est considéré par Dieu comme un péché, et par David lui-même comme une folie. Alors ça ne veut pas dire que l'INSEE qui fait des statistiques, forcément. Parce que c'est aussi une autre culture, et en fait il y a une sorte de, à travers cette tentative, c'est une sorte de prise de possession de quelque chose qui appartient à Dieu, c'est-à-dire à trop vouloir, en fait c'est vouloir trop évaluer un bien qui est de Dieu, le peuple d'Israël, et donc de se l'approprier de cette manière-là. C'est-à-dire le roi David, sous un certain angle, son acte de recensement, c'est comme une sorte de tentative de prendre la place de Dieu pour Israël. Alors, c'est pas sûr que l'INSEE ait le même genre d'idée quand ils font des statistiques sur la population française. Encore qu'on n'en sait rien, hein, jusqu'où peuvent aller les instruments statistiques pour affirmer un pouvoir étatique plus ou moins totalitaire. Bon. Voilà. Mais donc, on a Saül, on a David. Il s'agit de deux pécheurs. L'un va finalement être rejeté et l'autre non. Et quelle est la différence ? Ben la différence, c'est que Saül va traiter son sentiment de culpabilité dans un processus d'auto-justification. C'est-à-dire quand le prophète lui reproche ce qu'il a fait, eh bien il dit non, mais en fait c'est pour Dieu que j'ai fait ça. Donc il y a une sorte de tentative de nier sa propre faute. Et c'est à partir de là, finalement, que Dieu, du coup, va lui choisir un successeur qui finira par prendre sa place. Alors, chez David, il y a des péchés qui sont non moins graves du point de vue de ce qu'il représente, en fait. Mais l'attitude de David, quand ce péché lui est manifesté, est totalement différente. C'est-à-dire, on voit qu'il rend les armes tout de suite. C'est « j'ai péché contre le Seigneur ». Alors, c'est intéressant de voir, par exemple, comment ça se passe avec l'épisode de Betsabée et puis de Uri le Hittite. Parce que on a d'abord David, en quelque sorte, qui est tout seul aux prises avec sa faute. Alors, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a appris donc que Betsabée est enceinte de ses œuvres et donc que l'adultère risque d'être révélé? Eh bien, il commence par essayer de noyer le poisson en faisant revenir Uri le Hittite, en espérant qu'il couche avec sa femme et que du coup, ni vu ni connu, je t'embrouille, on ne saura plus que l'enfant était d'un autre. Hein. Mais en quelque sorte, c'est David qui se débat d'une part avec lui-même et puis aussi avec le risque que sa faute soit révélée publiquement. Donc, ça ne fait pas encore entrer en jeu la question du rapport avec Dieu. Mais on voit bien qu'il y a une sorte de processus de fuite qui n'est pas tellement une négation du péché en tant que tel, mais un désir de le cacher. Donc, on est à nouveau dans une logique de cacher aux yeux d'autrui cette faute. En même temps, on peut se demander jusqu'à quel point David se cache sa faute. À ses propres yeux, en même temps qu'aux yeux d'autrui. Parce que, ma foi, une fois qu'il a réussi, non pas finalement à embrouiller l'affaire, mais carrément à tuer le mari, eh bien, ben voilà, le problème est résolu, semble-t-il. Et donc, il faut l'intervention du prophète pour lui raconter une petite histoire. Sur un pauvre et son agnel. Hein. Et puis David se met très en colère contre ce riche qui a privé le pauvre de sa petite agnelle. Et le prophète lui dit: ce pécheur, c'est toi. Et David immédiatement rend les armes: j'ai péché contre le Seigneur. Et en même temps, ce pécheur, c'est toi. Quand vous voyez la suite de ce que dit le prophète à David sur ce qui va lui arriver à cause de son péché, c'est plutôt carabiné, c'est-à-dire on est bien dans le registre de la colère de Dieu. Et donc, mais vous voyez là, il y a cette différence fondamentale entre Saül et David, c'est que Saül nie son péché ou tente de le nier, alors que David, dès lors que le doigt est mis sur son péché, tout de suite reconnaît son péché. Donc, finalement, à terme, il cesse de se cacher, son péché. On pourrait faire d'autres observations. Vous avez le parallèle classique qu'on fait entre le péché de Judas et le péché de Pierre, par exemple. Péché de Judas qui conduit au suicide, péché de Pierre qui conduit aux larmes. Or là, Judas est conscient d'avoir péché, il ne se cache rien, mais il vit ce péché. Du point de vue du désespoir, c'est-à-dire en ne croyant pas que la miséricorde de Dieu puisse le sauver. Et donc ça débouche effectivement sur la mort. Hein, et ça illustre bien par ailleurs ce que saint Paul dit de la tristesse selon Dieu et de la tristesse selon le monde. Il touche des questions qui justement concernent le péché dans la communauté de Corinthe. Et il loue les Corinthiens d'être entrés dans la tristesse selon Dieu, parce que la tristesse selon Dieu conduit à un repentir salutaire, donc salutaire, c'est-à-dire source de salut, tandis que le péché selon le monde produit la mort. La tristesse selon le monde produit la mort. Vous voyez, tout l'enjeu de la question du sentiment de culpabilité, il est là. De quelle tristesse va-t-il s'agir? Est-ce que ça sera une tristesse selon Dieu ou une tristesse selon le monde? Alors, au bout du compte, donc il y a une question qui reste là, en fait. C'est-à-dire, on peut se demander comment c'est possible que l'impossible soit possible, quoi, en gros. Hein, comment est-il possible qu'alors que normalement, on ne peut pas tenir devant Dieu, que Dieu nous ait donné de devenir enfants de Dieu, ou comme dit saint Paul, de recevoir l'Esprit Saint qui nous permet d'appeler Dieu Abba Père, alors qu'a priori, normalement, notre rencontre et notre intimité avec Dieu n'auraient pas dû avoir lieu parce qu'on aurait dû en être détruit. Aussi, quelquefois, on trouve dans certaines hymnes des choses un petit peu qui reflètent cette idée-là. Par exemple, il y a une hymne orthodoxe qui est littéralement fascinée par l'idée que l'apôtre Thomas a mis la main dans le côté du Christ. Et en gros, le texte dit, mais comment est-ce possible qu'il ait mis la main dans le côté du Christ sans que sa main en ait été complètement détruite? Et finalement, c'est précisément aussi la révélation du mystère de Dieu à travers le mystère de l'incarnation et le mystère trinitaire qui nous font comprendre, c'est cette révélation qui nous fait comprendre que finalement ce qui apparemment était impossible est pour Dieu possible. Alors ça n'est pas possible à nous, parce que de notre point de vue à nous, quand on prend nos seules ressources face à un Dieu qui est infini devant nous, eh bien on ne résiste pas. Mais c'est possible à Dieu, d'une part, parce que, alors que nous ne pouvions pas aller à la rencontre de Dieu, c'est Dieu qui, en Jésus-Christ, prend l'initiative de venir à notre rencontre, et de venir à notre rencontre jusqu'à la dernière place que nous occupons, hein, celle de la créature pécheresse, puisque Dieu vient en Jésus prendre portée nos péchés. Et s'offrir à son Père en sacrifice. Et puis, le fruit de tout cela, c'est une rencontre avec Dieu, mais qui n'est pas une rencontre de deux êtres extérieurs. En fait, c'est une intégration à l'intérieur de la vie divine. Puisque, comme dit saint Paul, on a reçu l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint nous fait fils de Dieu. En fait, il nous insère dans le Fils éternel pour que nous puissions, dans le Fils, participer à son éternelle communion avec le Père. Donc, de ce point de vue-là, on n'est pas à l'extérieur de Dieu, parce que si on était à l'extérieur, ben, on retomberait dans cette problématique qui font que, de toute façon, il y a une disproportion totale entre les deux. Mais on est, en quelque sorte, intégré à l'intérieur des relations trinitaires. Et donc notre Abba, c'est notre participation à l'éternel Abba que le Fils exprime à son Père. Donc nous sommes à l'intérieur, alors c'est aussi, ça se décrit aussi symboliquement à travers le fait que nous sommes en quelque sorte à l'intérieur du cœur du Christ. Et du cœur du Christ, en quelque sorte, chacun de nous est très sensible au cœur du Christ, parce qu'il s'agit d'un cœur blessé, et blessé par nos péchés, mais pourtant qui a accepté ce prix pour nous prendre en son propre cœur. Donc le symbolisme du cœur transpercé est là, et même dans le fameux épisode du creux du rocher, dans lequel Moïse est mis, pour ne pas être grillé par le passage de Dieu, si j'ose dire, eh bien, ce creux du rocher a souvent été considéré dans les interprétations mystiques comme la plaie du cœur du Christ. C'est-à-dire, en fait, c'est parce que nous sommes dans la plaie du cœur du Christ que Dieu peut être là sans que nous en soyons détruits. Le thème du creux du rocher, on le retrouve aussi dans le livre du Cantique des Cantiques, où la colombe est dans le creux du rocher. Donc, il y a eu tout un tas de liens comme ça qui ont été faits dans la lecture spirituelle de l'Ancien Testament et qui sont très beaux dans leur manière dont ils renvoient au mystère du Christ. Alors toute la mystique du cœur du Christ est liée à ces thèmes-là. Donc c'est bien autre chose que du sentimentalisme saint-sulpicien. Donc, quelquefois, malheureusement, la dévotion au cœur du Christ a eu ce genre de dérive. Mais il faut bien ressaisir la racine de ces affaires-là. C'est-à-dire, la racine de ces affaires-là, c'est notre condition devant Dieu, c'est le mystère d'un amour dont on n'a pas idée, c'est la façon dont le cœur du Christ et la blessure du cœur du Christ nous rejoignent. Voilà, et c'est de ce fait-là que nous est rendue possible une relation nouvelle avec Dieu qui va intégrer notre sentiment de culpabilité par la racine, c'est-à-dire en partant de la réalité de notre péché, mais la réalité de notre péché telle que assumée par le Christ et donc pardonnée par le Père. Donc, ça vous explique que dans l'annonce du salut, éventuellement, saint Paul ne lésinera pas, surtout quand il s'adresse aux Juifs dans ses premiers discours, dans les Actes des Apôtres, il dit « ce Jésus que vous avez crucifié ». Donc, prendre la mesure que notre péché conduit à la croix du Christ, c'est-à-dire c'est nous qui sommes les responsables, sous un certain angle, donc avec les bourreaux, avec tous ceux qui y ont participé à l'époque, mais en réalité, comme le Christ a donné sa vie à cause de nos péchés, pour nos péchés, cette phrase « ce Jésus que vous avez crucifié », elle nous est adressée aussi à nous. Et donc, c'est désormais la perception de notre culpabilité va se jouer en rapport à cette vérité. C'est ce Jésus que vous avez crucifié par vos péchés. Ce qui est en même temps, sous un certain angle, ça porte le sentiment de culpabilité à son paroxysme, parce que ça intègre notre faute dans quelque chose qui est un drame absolu, enfin, le fait de rejeter, enfin, de crucifier celui qui n'est qu'amour, et qui est amour infini. Donc, sous un certain angle, ça porte ce sentiment de culpabilité au paroxysme, mais c'est un paroxysme qui est en même temps celui de notre culpabilité, mais aussi celui de la manifestation de la miséricorde. Hein, c'est la même croix qui vient de notre péché et qui lave notre péché. Ou alors, redit d'une autre manière, si symboliquement la lance qui transperce le cœur du Christ est celle de nos péchés, eh bien, ce qui ressort de ce transpercement n'est que donc eau et sang qui symbolise la miséricorde du Christ. Alors, c'est de ce point de vue-là qu'effectivement, il y a quelque chose qui, d'un point de vue émotionnel, si on prend vraiment les affaires au sérieux, est extrêmement puissant et profond, hein, ce qui justifie les larmes de tous les pécheurs qui prennent la mesure de leurs péchés, hein, en commençant par Saint-Pierre, puisque sa première réaction quand Jésus le regarde après son reniement, c'est d'éclater en sanglots. Et puis, ça rejoint voilà, tout pécheur qui prend conscience de son péché. Donc, de ce point de vue-là, les larmes deviennent aussi un don, hein, comme selon la tradition spirituelle. Mais Ça m'est arrivé comme ça une fois au caté. J'avais donné aux parents une petite leçon à faire à leurs enfants à la maison, qui était justement sur le thème Jésus nous a obtenu le pardon en mourant pour nous sur la croix. Et une maman, ensuite, à la réunion de parents suivants, dit ma fille, quand elle a entendu ça, elle a éclaté en sanglots. J'étais très gêné, dit-elle. Et je lui ai dit, mais gloire à Dieu, c'est exactement la bonne réaction. Parce que, en l'occurrence, c'est bien sûr la prise de mesure de notre péché, mais la prise de mesure de notre péché aussi complètement secouée par la prise de mesure de l'ampleur de la miséricorde de Dieu pour nous. Donc on n'est pas dans du pleur désespéré ou dans quelque chose de suicidaire ou dans la tristesse selon le monde qui conduit à la mort. Hein, dans ce qu'on pourrait appeler le remords. Enfin, le remords, c'est ça, c'est un certain regret de la faute, mais qui est vécu en tant que mort. Là, on est dans une souffrance de la faute intégrée dans les souffrances du Christ pour notre salut. Donc, vous voyez comme se nouent les affaires, hein. En même temps, à la base, on a bien un enjeu qui est d'ordre spirituel, qui regarde notre liberté pécheresse et éventuellement notre liberté repentante et puis sauvée. Et là, on est au plan spirituel. Et puis, quelque chose qui ne court-circuite absolument pas l'affectivité humaine, parce que tout ce qu'on décrit là, c'est lié à des expériences et à des sentiments qui ont un caractère aussi très intense du point de vue, d'un point de vue psychique. Mais on est dans une perspective d'intégration, et dans la mesure où quelquefois, pour toutes sortes de raisons, il y a des divergences entre les deux, eh bien la bonne solution est de rentrer davantage dans ce mystère pour que ce que nous vivons comme sens de la culpabilité s'ajuste le mieux possible à la vérité de notre relation avec Dieu. Sinon, on risque de retomber dans les pathologies que je vous ai dites quelquefois, donc soit des culpabilités mal placées ou des culpabilités marquées de désespoir et de mauvaise tristesse, ou alors des absences de culpabilité là où on devrait se sentir beaucoup plus coupable qu'on ne se le sent. Hein. Le curé d'Ars raconte comme ça qu'une fois, il a demandé à Dieu comme grâce de mieux comprendre son péché. Et il a dit, j'en ai été tellement saisi d'horreur que si le Seigneur ne m'avait pas soutenu de sa miséricorde, j'en serais mort. Et à nouveau, on se trouve donc à ce paroxysme de la vérité du péché, de la vérité sur le péché, mais qui est rejoint par le paroxysme de l'amour du Seigneur sur la croix. Donc, c'est-à-dire que la foi chrétienne, de ce point de vue-là, elle est marquée d'un drame. C'est le théologien Hans Urs von Balthasar qui parle de la dramatique divine, hein, mais quand on regarde au plan de l'histoire du salut, parce qu'ensuite je ne m'aventurerai pas dans les spéculations trinitaires de Balthasar, mais quand on regarde ces choses au plan de l'histoire concrète du salut, il y a de fait ce drame de la croix, c'est-à-dire le processus du salut n'est pas un processus soft, vous voyez, où finalement Jésus est bon, nous faut être gentil, et puis quand on n'est pas gentil, Jésus l'est bon quand même, donc c'est pas grave. Enfin, vous voyez, c'est l'hérésie de nos temps actuels. Hein, j'appelle ça le soft christianisme, c'est-à-dire en gros, ça se résume au caté Dieu il est bon, Jésus il est gentil, et nous faut être gentil. Voilà. Voilà. Donc mais malheureusement, on baigne un peu dans cette atmosphère, quoi. Alors que tous les saints et les pécheurs qui prennent un tant soit peu au sérieux leurs conditions ont toujours vécu les choses comme toute autre chose que un petit truc bien sympa dans lequel on est caressé dans le sens du poil. Il y a quelque chose qui touche donc à la donc le mystère de la crucifixion du Christ, le fait que notre péché crucifie le Christ, mais que la crucifixion du Christ nous apporte le salut. Et donc, il faut mesurer le prix de ce salut, hein, qui est la croix du Christ. Le mesurer comme un drame dans la mesure où on se sent pécheur et responsable donc d'avoir crucifié le Christ, mais tout cela immergé, donc qui ne s'arrête pas à quelque chose qui pourrait devenir le suicide de Judas, hein, mais tout ça immergé d'emblée, c'est-à-dire la prise de mesure de la profondeur de notre péché est contemporaine avec la prise de mesure de la miséricorde du Christ. Alors c'est tout ça qui va nous amener à réfléchir d'un peu plus près, puisque la tradition théologique s'est attachée justement à l'examen de cette question de la souffrance pour le péché. Alors, dans la tradition spirituelle, c'est lié aux expériences de repentir, de conversion. Et puis, la fameuse question qui tourne autour, qu'est-ce que la contrition ? Pas mal d'entre vous ont appris par cœur un acte de contrition, sachant que on parle éventuellement de contrition parfaite ou de contrition imparfaite, ou alors dans la théologie on utilise plutôt le mot attrition aussi pour la contrition dite imparfaite. Alors, on va regarder ça d'un petit peu plus près, parce que ça montre que cette question de la souffrance à cause du péché, donc qui se traduit psychologiquement par le sentiment de culpabilité, donc cette souffrance pour le péché peut être l'objet aussi d'une sorte de cheminement et d'approfondissement, hein, parce que vous avez l'approche un peu immédiate et encore pas très profonde, je me sens coupable, et puis il y a ce qui va se passer quand on va creuser dans la vérité de ce qui se passe vraiment, et qui débouche sur ce que la tradition appelle la contrition, et qui est la disposition nécessaire pour, quand on est dans le contexte du sacrement du pardon, pour recevoir le sacrement du pardon. Voilà. Donc on regardera ça tout à l'heure, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de... c'est quasiment l'heure, donc c'est l'heure du café. Voilà. Voilà, donc les papiers sont là, hein, si vous voulez les récupérer, ceux qui en ont besoin pour valider la...
C'est que du coup, on a l'impression que c'est un sujet court.
Thank you.
Alors avant d'attaquer sur contrition, attrition, tout ça, je pense que ce qu'il faut mesurer, c'est que à terme, l'expérience à la fois du péché est liée donc aussi à ce sens de la culpabilité en rapport avec la croix du Christ et le mystère du salut, ça conduit à une sorte de paradoxe parce que la croix est en même temps le lieu d'un drame et aussi le lieu d'une joie parce que c'est toujours la double face, c'est mon péché qui crucifie Jésus, mais c'est de la croix que me vient la miséricorde, qui est aussi, finalement, c'est la victoire de la croix qui est dans la résurrection, dans le pardon et donc dans la joie du salut. Ce qui explique qu'à terme, quand on annonce l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc elle suscite la joie. Mais une joie qui sera passée aussi par l'expérience des larmes. Si, en tout cas, dès lors que les affaires sont vraiment considérées avec un minimum de profondeur. Donc ça veut dire qu'il va y avoir à terme des choses qui peuvent paraître un peu paradoxales, mais qui sont en même temps qui font partie de l'expérience de la joie chrétienne du salut. Hein, si je constate que je suis pécheur, là je parle non pas des péchés à faire, mais des péchés faits, hein, et que j'en conçois une certaine tristesse, en fait cette tristesse, dans l'annonce de l'Évangile, elle est appelée à se transformer en joie, parce que finalement, certes, je peux dire « je suis le pécheur qui a crucifié Jésus », mais à partir d'un certain point, il faut que je puisse dire aussi « donc je suis l'unique brebis que Jésus cherche avec amour hein ». Et où du coup, paradoxalement, le péché, la condition de pécheur et l'expérience aussi de ses propres limites va être transfigurée par... cette expérience d'être recherché par un amour qu'on ne mérite pas, mais qui pourtant se donne et nous rétablit dans notre dignité d'enfant de Dieu. Donc le mystère de la faiblesse humaine et du péché est parcouru par ces choses qui, disons, a priori pourraient sembler un peu contradictoires, mais en réalité, en profondeur, ne le sont pas. Donc, c'est le rapport entre la joie et la croix, en gros, hein, c'est qui se joue là. Parce que sinon, on pourrait tomber simplement dans une vision extrêmement sombre, janséniste, de la croix, où on est surtout dans un sentiment de culpabilité qui devient vertigineux, mais qui n'est pas transfiguré éventuellement par cette perspective du salut et de la joie du salut, hein, et du fait d'être aimé, d'être rejoint et aimé là où nous sommes. Ou alors, en sens inverse, vous avez ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire ce soft christianisme dans lequel finalement la miséricorde de Dieu devient une bonne raison de ne pas se convertir, puisque de toute façon, Dieu, il est gentil. C'est-à-dire, paradoxalement, alors que la miséricorde lue dans la croix, en même temps, est source de profonde espérance, puisque la croix, le Seigneur a donné sa vie pour notre salut. Donc à cet égard, il y a une profonde espérance, mais une profonde espérance qui est lue dans un drame, en même temps. Et non pas dans une approche gentillette. Voilà. Et dans l'expérience de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en particulier, il y a quelque chose de très fort là-dessus, sur la question de la façon dont un certain souci de justice tel qu'il s'exprimait dans la mystique monastique de son époque où certains s'offraient en sacrifice à la justice divine, etc., se transforme chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en une offrande en sacrifice à la miséricorde de Dieu, qui n'ignore rien du fait que cette miséricorde est marquée par le drame du péché, mais qui, qui est fondamentalement transfiguré par le mystère de cet amour victorieux et de qui nous aime tel que nous sommes. Donc à partir de là, il y a aussi, donc, ça rejoint ce que je vous évoquais par rapport à saint Paul et sa fameuse écharpe dans la chair, où à terme, si on peut dire que la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse, du coup, paradoxalement, le fait d'avoir péché, mais que ce péché soit réintégré dans un chemin de salut, va être à terme repris dans une dynamique de joie. Non que ça nie le péché en tant que péché, et le moment absolument dramatique du péché en tant que péché, mais qu'on y contemple aussi le fait que l'amour de Dieu est capable de remplir cet abîme du péché par une miséricorde surabondante. Donc à terme, c'est-à-dire que le pécheur pardonné, il est capable de cette expression qu'on trouve dans l'Exultète à propos de la faute d'Adam, hein, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur, et où il y a une sorte de joie paradoxale, parce que finalement, cette faute est l'occasion de la révélation d'un amour plus grand encore. Donc ça n'est pas du tout se démobiliser par rapport au péché en disant bon, « de toute façon je peux pécher puisqu'il y a la miséricorde de Dieu hein. ». D'ailleurs saint Paul le dit explicitement, c'est-à-dire quand il parle de ce rapport mystérieux entre le péché et la miséricorde, il dit « attention, il ne faut pas en tirer le fait, ben péchons donc davantage, comme ça le pardon se manifestera davantage hein. ». Mais il s'agit du péché vécu en tant que réalité en quelque sorte qui est déjà là, c'est-à-dire non pas en vue de justifier un futur péché, hein, mais d'accepter que l'on a péché. C'est-à-dire une fois qu'on a péché, on ne peut pas faire que ça n'ait pas eu lieu. Mais simplement, ça va se trouver réintégré dans le mystère d'une joie, parce que lieu d'une manifestation de la miséricorde de Dieu que finalement, paradoxalement, ce péché a rendu possible. C'est une expérience qui se vit dans toute expérience de réconciliation. Il y a des choses qui sont un petit peu de cet ordre-là. Vous voyez, hein, paradoxalement, à l'intérieur d'un cheminement de couple, le couple qui a vécu un vrai épisode de conflit suivi d'un vrai épisode de réconciliation vit dans un amour plus mûr et plus profond que le couple qui n'a pas eu cette épreuve-là. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Il y a une puissance du pardon, à la fois au plan divin et au plan humain, capable de conduire à un approfondissement de l'amour qui traverse les épreuves, voire les négations et les ruptures de l'amour. Et tous les couples savent bien que s'ils ont la joie de vivre une certaine maturité de l'amour, que cette maturité ne s'est construite aussi qu'au prix de ces traversées de choses un peu difficiles. Voilà, alors maintenant venons-en à cette question attrition-contrition. Donc traditionnellement, on appelle contrition cette douleur à l'égard de nos péchés qui a pour motif l'amour de Dieu. Bon, c'est vrai que si on veut le retraduire un peu concrètement, c'est finalement l'expérience qu'on se prend éventuellement en plein cœur, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc je souffre de mon péché en rapport immédiat avec l'amour de Dieu que j'ai blessé. Donc ça, c'est la contrition. Et donc la contrition, elle est au cœur de l'expérience du sacrement du pardon. Mais en même temps, elle a donné lieu un petit peu à des considérations paradoxales. Parce que si je suis dans la contrition, c'est-à-dire que je souffre à cause de l'amour de Dieu que j'ai blessé, et donc je suis dans cet amour de Dieu. Mais un amour de Dieu qui souffre. Et donc si je suis dans cet amour de Dieu, ça veut dire en quelque sorte que si je suis vraiment contrit, je suis déjà réconcilié avec Dieu. Puisque l'amour de Dieu est là et vivant et il ne peut venir que de Dieu lui-même. Et donc certains se disaient, bon bah finalement, si je suis vraiment dans la contrition, il n'y a plus besoin de se confesser. Et d'ailleurs, saint Thomas affirme qu'un certain nombre de pécheurs arrivent déjà contrits au sacrement du pardon, et que étant déjà contrits, en fait, ils sont déjà pardonnés. Mais il y avait une question par là.
Oui. Si la contrition est déjà une remise dans l'amour de Dieu, du coup, quelle est la souffrance qui est liée?
C'est-à-dire, c'est le fait de prendre conscience que j'ai blessé celui que j'aime, en gros. Mais pour souffrir de blesser celui que j'aime, il faut l'aimer. Ça n'a pas l'air de te convaincre totalement, cette affaire-là.
Si. Oui.
Alors, en fait, tout ça c'est un peu théorique parce que personne ne peut être vraiment sûr d'être contrit. En pratique, on fait l'expérience de cette souffrance éventuelle d'avoir péché, mais quelle est la part d'une véritable contrition et la part d'une souffrance qui n'est peut-être pas tant que ça une contrition? En fait, on n'en sait trop rien. Et c'est pas parce qu'on récite l'acte de contrition que ça nous donne la certitude d'être vraiment contrit. D'autant que les formulations sont tellement abstraites du sacrement de l'acte de contrition que souvent, pour réussir à véritablement se dire ce que ça veut dire, il faut quand même un petit effort intellectuel. Parce que c'est plus du langage néo-scolastique qu'autre chose. Mais c'est vrai qu'à la limite, peut-être de trouver une formule qui centre davantage sur le rapport au Christ crucifié aurait peut-être plus d'efficacité du point de vue pastoral que de faire... réciter une formule qui en fait vient de théologiens un peu rationalistes. Enfin bref. Cela dit, si on a compris pourquoi l'acte de contrition est formulé comme ça, on peut aussi le dire, hein, c'est pas un péché. C'est... Mais on voit bien en confession, comme les gens qui connaissent encore l'acte de contrition le disent quelquefois de façon un peu compulsive et par cœur, mais dans une attitude où finalement, comme par ailleurs la relation au confesseur, au ministre, est quand même marquée d'une certaine tension, parce que se confesser, c'est quand même se dénuder, hein, pour reprendre l'image biblique. Donc c'est marqué par une certaine tension, une certaine forme d'angoisse, et souvent la récitation un peu automatique de l'acte de contrition... sert plus à se réfugier dans des paroles qu'on connaît et qui sont rassurantes que d'exprimer véritablement, intérieurement, ce qui serait une véritable attitude contrite. Alors, cela dit, c'est pas incompatible. Non, les deux ne sont pas incompatibles, mais quelquefois, j'ai un peu des doutes sur ce que les gens comprennent vraiment et sur ce qui... sur la façon dont leur cœur participe éventuellement à la formule qu'ils récitent. Enfin bref, en plus je pense que ça peut aussi induire une vision fausse de la contrition, c'est-à-dire de croire que l'effort de comprendre les mots que je suis en train de dire et l'effort humain d'essayer d'appliquer ces mots dans mon cœur serait la contrition. Alors qu'en fait la contrition c'est une grâce de Dieu en même temps. puisque ça vient de l'amour de Dieu. Donc ce n'est pas simplement quelque chose que je peux vivre par un effort subjectif. Or, quelquefois, la formule de l'acte de contrition est vécue un petit peu comme ça par le pénitent. Je vais faire l'effort de bien penser à ce que je dis pour produire vraiment une vraie contrition. Alors, en fait, même avec tous ces efforts-là, en fait, on n'est jamais sûr d'être vraiment contrit, hein, parce qu'il existe, comme on l'a vu à travers cette question du sentiment de culpabilité, toutes sortes de motifs de souffrir de son péché. Et des motifs qui ne sont pas forcément centrés sur l'amour de Dieu, mais qui peuvent être centrés sur l'amour de soi ou sur un amour purement humain d'autrui. Donc, par exemple, cas classique de contrition dite imparfaite ou de ce que la tradition théologique appelait de ce point de vue-là l'attrition, souffrir de son péché par peur de l'enfer. On n'est pas tellement à se dire « j'ai crucifié Jésus », mais à se dire « oulala, là j'ai fait une grosse bêtise, je pourrais me retrouver éternellement en enfer ». Alors Jésus n'a rien contre la peur de l'enfer, hein, parce que dans l'Évangile, il essaye régulièrement de la susciter. Donc, il faut prendre sa pédagogie pour ce qu'elle est. Il faut remarquer, malheureusement, que les curés parlent beaucoup moins souvent de l'enfer que Jésus, et que quand dans l'Évangile du dimanche, il est question de l'enfer, en général, l'homélie saute allègrement sur ce petit côté un peu gênant de la lecture. Et donc, peut-être qu'il y aurait besoin de retrouver ce qui a toujours été traditionnellement un thème de prédication de conversion, hein, et qui passe aussi par le fait de parler de l'enfer. Donc, une question de peur, donc il y a un côté psychique, la peur, hein, mais c'est une peur qui peut être salutaire. Parce que bon, quand Jésus parle de pleurs et de grincements de dents, c'est pas pour susciter de doux sentiments. Hein, les grincements de dents, c'est une image qui est assez atroce. Ça fait penser aussi à l'ongle qui se casse sur un tableau, les choses comme ça, vous savez, les machins, les sons insupportables. Et s'il fallait se farcir ça pour l'éternité, bonjour les dégâts. Bon. Et par exemple, Saint Ignace de Loyola, dans ses exercices, a une méditation sur l'enfer qui est assez carabinée. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, et éventuellement se dire que ce qui peut nous mobiliser contre le péché, si ça passe par ces choses qui spirituellement ne sont pas très glorieuses, parce que c'est plus de l'intérêt de soi pour soi que véritablement de l'amour de Dieu, mais si notre conversion doit passer par cette étape-là, il ne faut pas la négliger non plus. Hein. Après tout, dans la parabole du fils prodigue qui est si jolie, le fils prodigue, ça commence par l'expérience d'un estomac creux, par le fait de dire « au moins chez mon père, il y a à bouffer ». Ce n'est pas très glorieux non plus, mais ça rentre à l'intérieur d'un cheminement. Voyez, donc ça ne s'arrête pas là. Et c'est vrai que quelqu'un qui s'arrêterait à la question de son péché uniquement au plan de la peur de l'enfer, il louperait le plus intéressant de la chose, qui est justement la perspective de la miséricorde. Donc le fils, quand il est simplement à se dire « il y a à manger chez mon père », il n'est pas encore à l'étape qu'il est appelé à vivre, qui est celle où le père se précipite sur lui pour l'embrasser, et puis où tout se finit par un festin de retrouvailles. Mais il faut prendre acte que dans la pédagogie de Jésus lui-même, et dans le cheminement de conversion, eh bien, Jésus ne néglige absolument pas qu'un certain nombre des motivations initiales ne soient pas les plus spirituellement pures. Mais qu'elles soient là et qu'elles puissent être intégrées à l'intérieur d'un cheminement qui va prendre une ampleur véritablement spirituelle. Là encore, c'est une perspective d'intégration. Or, trop souvent, on a tendance à vouloir opposer ces affaires-là, alors qu'en fait, elles sont appelées à s'intégrer. Y compris quand il s'agit de la peur. Parce que la peur peut être tout à fait salutaire. Et en tout cas, elle est normale. C'est vrai que s'il y a un vrai risque de damnation éternelle, ben, il vaut mieux en avoir peur. Hein, quand Jésus dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent vous faire ceci et cela, craignez plutôt celui qui peut vous jeter dans la géhenne, etc. Hein, » craignez, donc il y a bien une injonction à avoir peur. Bon. Voilà, simplement, il ne faut pas tomber dans ce que Delumeau appelait la pastorale de la peur, et où finalement... certains prédicateurs étaient plus préoccupés de susciter la peur que de conduire à une conversion complète et intégrale qui va au-delà de la peur. Puisque, comme dit Saint Jean, l'amour parfait chasse la crainte. Mais que l'amour parfait chasse la crainte ne doit pas faire oublier que finalement, peut-être que l'amour parfait aura commencé par la crainte. Pour pouvoir la chasser, il faut qu'elle ait été là. Et donc vous avez des gens dont les premiers pas vers la réconciliation avec Dieu commencent quelque part par la peur de l'enfer, quand en particulier certains qui ont conscience d'avoir vécu des péchés très graves peuvent quelquefois commencer par ça. Il y a un épisode qui a été un peu connu, mais quand Jean-Paul II s'était rendu en Sicile, il a fait une prédication extrêmement violente contre les mafieux en les menaçant des peines de l'enfer. Et il y a eu des conversions de mafieux suite à ça. Donc voilà, hein, un cas, tout ce qu'il y a de plus, enfin, relativement récent encore. Hein. Voilà, donc peur de l'enfer. Quelquefois, c'est aussi pour un certain nombre de personnes le fait de ne plus se supporter soi-même. Donc le fait de vivre un sentiment de culpabilité de plus en plus insupportable. Où la question n'est toujours pas la question du rapport avec Dieu, mais le mal-être. Du sentiment de culpabilité qui éventuellement peut s'amplifier et devenir insupportable. Or, en tant que confesseur, on en fait quelquefois l'expérience quand des personnes viennent confesser un péché 20 ans après. Vous voyez, elles ont supporté le sentiment de culpabilité de ce péché pendant 20 ans et au bout de 20 ans, elles n'en peuvent plus, elles craquent et elles vont se confesser. Par exemple, il est assez fréquent que le péché d'avortement soit confessé longtemps après. Parce que tout ça, c'est lié à tout un combat où la personne, au début, d'une part, n'ose pas le dire. Parce qu'en fait, très souvent, hein, il y a certains péchés dont l'accusation est accompagnée de paroles « je ne sais pas si Dieu pourra me pardonner ça » ou des choses comme ça. Où la personne... est très saisie par la gravité de ce qu'elle a fait et où quelquefois d'ailleurs cette honte de ce qu'elle a fait fait partie des motifs pour lesquels elle ne l'avait pas confessé jusque-là. Quelquefois c'est aussi au départ la tentative de se justifier, de dire finalement c'était pas un péché si grave que ça, mais par ailleurs ce qu'on appelle le syndrome post-avortement a été relativement analysé pour montrer qu'il y a toute une culpabilité cachée, que la personne arrive à se cacher à elle-même pendant un certain temps, mais qui finit toujours par revenir et qui provoque ensuite quelquefois des cycles des tentations de suicide, des dépressions, enfin toutes sortes de choses. Donc là, on est dans le domaine de la personne qui ne se supporte plus pécheresse. Quelquefois, c'est face aussi aux circonstances extérieures, aux effets extérieurs de nos péchés et à leur caractère irréparable que se provoque un très violent sentiment de culpabilité qui donc n'est pas de nouveau forcément tourné vers Dieu, mais peut être tourné vers l'ampleur des conséquences, en particulier chez les personnes... qui nous sont proches. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, imaginons que j'ai été un père violent et que du coup, j'ai des enfants qui ont très mal vécu l'éducation que j'étais censé leur donner et qui ont fini dans la drogue, la délinquance, voire le suicide, etc. Et où à un moment, je me rends compte comme père que je suis peut-être pour quelque chose dans ces conséquences et je mesure aussi leur caractère irréparable, humainement parlant. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait que mon fils qui est en prison va sortir de prison, que mon fils drogué va être libéré de la drogue ou que mon fils suicidé va revenir. C'est, il y a un côté, faire l'expérience du caractère gravement irréparable de nos actes, ça fait partie éventuellement des motifs qui conduisent certains à se remettre en cause. Et la question de l'irréparabilité est un caractère assez significatif. Il est très partie prenante de la culpabilité dans la question de l'avortement, puisque précisément l'enfant avorté, on ne peut pas le faire revenir. Et donc, y a le fait d'être face à l'irréversibilité de ce qu'on a fait au plan humain. Et précisément, la question de la réparation, c'est là qu'elle se pose en des termes où il ne s'agit pas simplement de psychologie, mais où il s'agit de la question de savoir s'il y aura bien une réparation possible. Et de fait, le mystère chrétien nous dit que celui qui répare fondamentalement, c'est le Christ, mais que mystérieusement, dans la dimension pénitentielle du pardon, le Christ nous rend capable de participer à la réparation de l'irréparable. C'est pour ça, par exemple, que face à certains péchés, en particulier quand ils ont eu des conséquences très graves et irréversibles, il est juste que le confesseur ne donne pas comme pénitence un pater et deux ave, mais qu'éventuellement il donne comme pénitence un pèlerinage à pied ou un séjour de plusieurs jours dans un monastère, des choses qui marquent beaucoup plus en profondeur la personne dans sa démarche pénitentielle, parce que grâce à cela, outre la question du pardon de Dieu qui est donnée dès lors que la personne est prête à assumer sa pénitence, mais la personne peut vivre d'une façon plus forte et retrouver une espérance à l'égard de cet irréparable, parce qu'elle va pouvoir expérimenter à travers une pénitence plus lourde qu'à l'ordinaire, qu'elle peut vraiment participer à la réparation. Dans le Christ, la réparation est à nouveau rendue possible, alors qu'au plan humain, elle était impossible. C'est très fortement exprimé, je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le film Mission. Donc vous avez ce gars qui a en fait tué, c'est son propre frère, autant que je me souvienne, pour une histoire de femme, et puis qui ensuite est dans un processus de... Et puis qui par ailleurs a aussi participé à des massacres d'Indiens, et donc qui a été un criminel. Alors, disons, il prend la mesure de son crime à l'occasion du meurtre de son frère. Ensuite, il rentre dans un processus de conversion et il rentre aussi dans une démarche pénitentielle, puisqu'on le voit à travers la jungle cheminer tout en tirant un poids invraisemblable, un poids dont il sera libéré au terme de sa marche par les Indiens eux-mêmes qui avaient été les victimes de ces crimes. Donc il y a une image qui, de ce point de vue-là, est très belle, mais où on voit bien que dans ce fait de suer sang et eau pour payer quelque chose de l'horreur de ce qu'il avait fait, il y a un désir qui humainement est très légitime, c'est-à-dire quand on se rend compte qu'on a bousillé des choses, si on prend la chose au sérieux, on désire réparer, et en même temps c'est vrai qu'humainement parlant, face à certains crimes qu'on a pu commettre, c'est irréparable. Mais dans le Christ, ça redevient mystérieusement réparable. Mais plus ce sentiment de l'irréparable est cuisant, et plus la pénitence peut avoir un caractère aussi guérissant de ce sentiment d'irréversibilité qui pourrait conduire au désespoir aussi. Et précisément, l'intensité de la pénitence, de ce point de vue-là, peut avoir un caractère qui aide la personne à incarner l'espérance dans cette expérience-là. Que finalement, ça ne fait que faire vivre de façon plus intense le fait que sous un certain angle, toute faute est porteuse d'irréparable. C'est-à-dire, quand Jésus est mort sur la croix, c'était humainement irréparable. Et comme tout péché a contribué à ça, tout péché est porteur d'une dimension d'irréparable. Mais précisément, c'est dans le mystère de la croix que ça redevient réparable, et que le pécheur lui-même est associé à la réparation. Voilà, donc on peut être dans l'attrition à cause de ce caractère irréparable des dégâts qu'on a provoqués par ses péchés. Voilà, donc tout ça, c'est des exemples qui montrent que les motivations pour lesquelles on peut souffrir de son péché ne sont pas forcément des motivations spirituellement pures. Et en pratique, le pénitent qui s'approche du sacrement peut être dans des motivations très mélangées, et dont lui-même, d'ailleurs, ignore la nature exacte. Alors on se dit, bon, s'il est dans l'attrition, c'est pas suffisant. S'il est dans la contrition, il est déjà pardonné. Alors que vient faire le sacrement là au milieu? Eh bien, ce que répond la théologie du sacrement, c'est que le pénitent peut arriver peut-être contrit, peut-être seulement dans l'attrition. Mais s'il n'était que dans l'attrition, la grâce du sacrement transforme cette attrition en contrition. Et donc la question à terme le plus important n'est pas de savoir si au moment d'arriver on est déjà contrit ou si l'acte de contrition que je récite va produire vraiment une contrition, c'est au moins d'être dans l'attrition et puis d'offrir cette attrition au Seigneur pour qu'il la transforme en contrition. Alors donc, si on était déjà contrit, bah, le Seigneur amplifie la contrition, et puis si on n'était que attrit, le Seigneur nous contrit, si j'ose dire. Alors la contrition n'est pas simplement le sentiment de culpabilité, parce que l'attrition, la disposition qui est nécessaire pour recevoir le sacrement, outre le fait de la souffrance du péché pour des motifs purs ou pas purs, hein, à la limite, à partir de ce moment-là, ça devient, la question des motivations exactes devient seconde, mais ce qui est important, c'est que la personne rejette vraiment son péché, c'est-à-dire le fait de souffrir de son péché, c'est aussi haïr son péché et vouloir ne plus le commettre, même si la motivation devait être purement humaine. Mais donc il y a une détermination à changer cette affaire-là, qui fait partie de l'attrition en tant que condition nécessaire pour recevoir l'absolution. Hein, donc c'est autre chose qu'une sorte de velléité, le fait de se dire « ça aurait été mieux si j'avais pas fait ça ». Bon. Mais si ça n'est pas accompagné de cette détermination à changer sur ce point-là, donc qui concerne notre liberté, eh bien, il manque le point d'accroche qui permettra au sacrement de transformer l'attrition en contrition, si jamais ça n'était qu'une attrition. Donc, ça voudrait dire, à ce moment-là, qu'on perçoit le sacrement uniquement comme une sorte de laverie automatique, si vous voulez, où on se sent mieux une fois qu'on y est passé. Mais finalement, peut-être que rien de sérieux ne s'est passé au plan de la conversion qui était nécessaire et du repentir qui était nécessaire. Donc, dans les deux cas, attrition ou contrition, on parle de quelque chose qui a en quelque sorte son efficacité au sens où ça concerne une certaine détermination de la liberté à changer d'orientation et éventuellement à en prendre les moyens. Parce que le fait de prendre les moyens, c'est ce qui atteste qu'on est vraiment déterminé à changer. Voilà. Sinon, on retomberait dans ce fameux schéma où la miséricorde, au lieu de susciter la conversion, serait un permis de ne pas se convertir. Finalement, si on peut être pardonné sans se convertir, bon ben, que la miséricorde nous dispense de nous convertir, c'est vachement agréable. Mais ça veut dire que ça ne nous prend pas tellement au sérieux non plus, dans le sérieux de notre liberté. Et puis donc, cette question d'être prêt à prendre les moyens est plus importante que la question de savoir si on risque sérieusement ou non de retomber. Je vous en ai parlé par rapport au péché d'orgueil. Vous voyez, péché d'orgueil, quand on le confesse, on est moralement certain qu'on va y retomber. parce que personne ne se dépatouille de la question de l'orgueil avant d'arriver au paradis. Bon. En tout cas, il commence à s'en dépatouiller souvent au purgatoire, histoire de pouvoir faire le grand passage. Bon. Donc finalement, quand on se confesse le péché d'orgueil, à la limite, on sait moralement qu'on va y retomber. Mais la question n'est pas tellement de savoir si on sait ou non qu'on va y retomber, mais si on est prêt à mobiliser les moyens pour devenir humble. Et donc, parce que finalement, si c'est juste balourder un péché d'orgueil comme ça, histoire de dire qu'on l'a dit, mais qu'en fait, il n'y a pas de véritable regret à l'égard de cet orgueil et de désir de chasser l'orgueil de notre vie, et puis de décision de prendre tel et tel moyen pour chasser l'orgueil de notre vie, eh bien, finalement, on est dans quelque chose qui n'est pas le véritable repentir chrétien. Donc la question n'est pas de savoir si on va retomber, la question est de savoir ce qu'on mobilise au plan spirituel avec l'aide de la grâce de Dieu et du point de vue de la détermination de notre liberté dans la lutte contre ce péché-là. Et ce que je vous dis pour l'orgueil, c'est vrai pour toute expérience de péché dans lequel quelqu'un pourrait retomber régulièrement, et chaque fois qu'il le confesse, il se dit, vu ma fragilité, il y a une très forte probabilité pour que je me recasse la figure là-dedans. Mais la question n'est pas là, c'est-à-dire, parce que si la question était là, à la limite, comme on est tous plus ou moins esclaves d'un péché ou de l'autre, à commencer par l'orgueil, eh bien, si la question était vraiment là, ça ne serait même pas la peine de se confesser, puis ça voudrait dire que, de toute façon, puisqu'on retombe, ça ne sert à rien. Or, ça vaut la peine de se confesser quand même, parce que la question n'est pas de savoir si on va retomber plus tard, mais ce qu'on décide aujourd'hui. Avec la grâce de Dieu. Parce que, évidemment, par ailleurs, alors ça, pour le coup, l'acte de contrition le dit bien, je prends la ferme résolution avec le secours de la Sainte Grâce. Donc il y a quelque chose qui concerne une ferme résolution, et puis il y a le secours de la Sainte Grâce, parce que je sais très bien, éventuellement, que cette ferme résolution va être mise à l'épreuve par mes tendances pécheresses plus ou moins résolues suivant les cas. Voilà, donc le « ça ne sert à rien puisque je recommence » n'est donc pas un bon argument. L'argument, il est bon dès lors qu'il se centre non pas sur nos conditionnements, mais sur la grâce de Dieu et notre liberté. Donc là, ce sont des choses qui concernent aussi, par exemple, la gestion de toutes les situations de dépendance dans le sacrement du pardon ou dans l'accompagnement. Hein, parce que, de fait, l'alcoolique qui se confesse et qui est encore dans son problème alcoolique, il se confesse. Et il a sans doute ce sentiment qui va retomber assez rapidement derrière. Vous avez aussi tout ce domaine au plan des péchés sexuels, ce qu'on appelle les habitudinaires, donc ceux qui sont pris dans des cercles vicieux de péchés sexuels plus ou moins compulsifs. Des choses qui peuvent toucher, par exemple pour certains, la masturbation, pour d'autres, l'expérience homosexuelle vécue comme extrêmement compulsive, parce que vous avez des versions d'homosexualité qui sont très, très compulsives, avec du coup des gens qui rentrent dans des trucs assez glauques en termes de drague homosexuelle, parce qu'il faut à tout prix, parce que la personne est tellement saisie par la pulsion qu'elle en perd les pédales et elle se trouve prise dans ces choses très glauques. Et si la personne en question est par ailleurs un catholique et un catholique pratiquant, eh bien, il va être pris dans cette souffrance et dans cette expérience éventuellement de cercle vicieux. Donc, vous voyez, ça peut toucher pas mal de domaines, hein, de dépendance d'une façon générale, et où précisément, c'est important d'expliquer à la personne que le fait qu'elle soit quasiment sûre qu'elle va se recasser la figure n'empêche pas de recevoir le sacrement, mais à telle et telle condition, qui regarde ce que je décide aujourd'hui et la manière dont je m'appuie sur la grâce de Dieu aussi pour le décider, et éventuellement les petits moyens que je mets en œuvre pour avancer. Et alors peut-être que fait partie du conseil donné en confession à ce moment-là, le fait de dire « faites-vous aider ». Hein, parce que par exemple l'alcoolique, le confesseur n'est pas forcément un spécialiste de la dépendance alcoolique. Et ça obéit à des configurations, à une pédagogie spécifique qui font que peut-être ce qui atteste pour la personne le désir d'en sortir sera le fait qu'elle accepte de se faire aider. Sachant que si elle ne se fait pas aider, elle va continuer à tourner en rond dans son problème et la seule chance qu'elle en sorte est justement qu'elle se fasse aider. Donc peut-être que le moyen nécessaire qui atteste, même au niveau, avec des difficultés extrêmement violentes, que la personne est dans une démarche de conversion, au minimum d'attrition avec ce caractère efficace pour le sacrement, eh bien, ça sera le fait d'accepter de se faire aider, peut-être, dans ce cas-là. Ou si la personne n'est subjectivement pas encore en état d'y penser, eh bien, le confesseur va centrer sur d'autres petits actes, parce que la question de se faire aider, d'accepter de se faire aider, il y a à la fois l'enjeu pour la liberté, mais quelquefois aussi le fait que certaines personnes ne sont même pas, n'ont pas les ressources subjectives encore pour l'accepter et le vivre. Mais là, c'est des affaires un peu confuses où, quand on est dans les situations de liberté très diminuées, il y a une prudence pastorale à avoir quelquefois pour ne pas faire peser sur les épaules des gens des joues qui n'ont pas la force de porter. Ça a toujours été un conseil aux confesseurs de ne jamais décourager les pénitents en leur donnant des obligations probablement elles ne seront pas capables d'intégrer. Non pas forcément qu'elles soient de mauvaise volonté, mais simplement qu'il y a des fragilités ou des immaturités ou des incompréhensions, une absence d'éducation sur certains domaines, etc., qui font que la personne n'est pas capable de comprendre. Et si on lui en parle, ça ne va pas l'aider, ça va la déstabiliser ou éventuellement la désespérer. Et donc à ce moment-là, la bonne politique du confesseur, c'est le silence. C'est le fait de, quelquefois, de ne pas en parler parce que c'est pas mûr. Ou de commencer à en parler à des niveaux beaucoup plus élémentaires que la personne peut comprendre et sur laquelle elle peut commencer du coup à bouger dans le bon sens. Mais... Voilà. Mais en tout cas, donc quand on parle de l'attrition ou de la contrition, de cette douleur du péché, c'est lié donc aussi aux capacités de compréhension de la personne. C'est-à-dire, si la personne n'est même pas en état de comprendre que tel acte est un péché, par exemple, c'est normal qu'elle n'en souffre pas en tant que péché. Ensuite, il peut y avoir un accompagnement pastoral qui aide la personne à découvrir que telle chose est un péché. Ensuite, cet accompagnement doit être aussi sensé d'un point de vue pédagogique pour que la personne puisse l'intégrer en positif et ne pas en être désespérée. Voilà, donc vous voyez, le psychique et le spirituel, ça se noue de façon relativement complexe, mais à chaque fois quand même, la question fondamentale, au centre de la question spirituelle, il y aura toujours la liberté de l'homme et la grâce de Dieu. Voilà, il est presque 11h, je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions sur tout ça, puisque c'est ça qui va conclure les rencontres que nous aurons eues sur ce sujet. Donc, vous voyez, dans l'accompagnement des cas difficiles, la question n'est pas de savoir si on utilise la miséricorde pour court-circuiter la question du péché, hein, mais de bien situer les affaires dans le chemin d'une personne pour lui permettre les pas décisifs qui vont la faire grandir dans le bon sens. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, sur la question des comportements sexuels ou conjugales, il y a une vraie question morale qui est la différence entre les méthodes naturelles de régulation des naissances et la contraception. C'est une vraie question morale, sauf que si vous êtes face à quelqu'un qui change de partenaire tous les deux jours, c'est pas encore le sujet. Hein? Parce que vous demandez à quelqu'un qui ne sait pas faire les additions d'essayer d'extraire des racines carrées. C'est pas la peine d'essayer, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, c'est, bon, c'est un exemple un peu bébête, mais c'est pour faire mesurer que on tient compte de ce que la personne est capable de percevoir, mais pour la situer véritablement dans sa liberté et dans une démarche de changement de vie et de conversion, où on ne nie pas qu'un péché soit un péché, mais simplement on passe sous silence un certain nombre de problèmes que la personne n'est pas encore en état d'assumer. Mais c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les enfants. Hein. Si on parlait aux enfants de 8 ans de tous les péchés possibles, ils seraient complètement déstabilisés parce que c'est complètement hors cadre pour eux. Donc on ne leur parle que des péchés qui sont à leur portée et à l'égard desquels ils peuvent véritablement faire un chemin de croissance humaine et spirituelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle le principe de gradualité. Vous voyez, le principe de gradualité, ça ne consiste pas à dire il y a des lois différentes suivant les cas, les situations, les machins, parce que la volonté de Dieu est une, elle n'est pas incohérente, mais de dire chacun en est à un point donné à partir duquel ce qu'on va lui dire doit être dit pour que la personne puisse le comprendre et l'intégrer. Et ça ne sert à rien de dire des choses que la personne n'est pas en état de comprendre ni d'intégrer. Voilà, tout ça pour clarifier aussi les débats qui ont réémergé récemment à l'occasion de certains textes pontificaux.
On traverse de ce que vous venez de dire, ça renvoie à la pertinence d'avoir un professeur régulier, que ce soit le même, parce que pour des situations complexes, ce cheminement n'est pas possible qu'avec une personne qui nous connaît et qui va marcher avec, évidemment avec le Seigneur, mais c'est quand même plus facile et il me semble que. Alors que maintenant des jeunes, c'est quelque chose que c'est une notion qui est importante quelquefois de dénoncer si on veut vraiment progresser. Parce que c'est vrai que sinon ça peut être un point de service.
Alors ce que vous dites, c'est vrai dans la mesure où en pratique le sacrement de réconciliation est un lieu aussi d'accompagnement. Ce qui n'exclut pas en même temps, comme la grâce du sacrement en elle-même, c'est de pardonner les péchés. Donc, à la limite, de ce point de vue-là, peu importe si c'est avec un prêtre qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, etc., si on veut recevoir le pardon des péchés, on va se confesser. Et si on présente les choses en vérité et qu'on a le désir de se convertir, on est pardonné. Ensuite, donc, vous avez, en soi, le sacrement, c'est ça, mais en pratique, il est de fait le lieu de conseil et d'accompagnement pour beaucoup de gens. Et de ce point de vue-là, des gens vont ressentir éventuellement de plus en plus le besoin de ce suivi à long terme. Mais ça peut aussi se monnayer de façon différente, parce que vous avez, y compris dans certaines règles religieuses, une distinction entre le sacrement et la direction spirituelle, par exemple. Et où là, du coup, les choses sont un peu séparées. Au sacrement, le pardon des péchés. À la direction spirituelle, l'accompagnement pour les problématiques un peu de long terme. Mais comme en pratique, la limite n'est jamais très claire entre ces deux aspects, puisque le péché, c'est à la fois des actes qu'on pose et qu'on a besoin de se faire pardonner, mais c'est aussi des problèmes qu'on a sur le long terme et qui ont besoin aussi d'un traitement de long terme, eh bien, en pratique, les limites ne sont pas très claires entre les deux aspects, soit que des pénitents se servent du sacrement du pardon pour trouver un lieu d'accompagnement en se confessant toujours au même prêtre, soit que des gens qui ont un directeur spirituel en profitent pour se confesser. Hein, voilà, bon. Oui.
Comme si la personne, ce qu'elle est en train de dire n'est pas certaine de ce qu'elle raconte comme péché. Donc, il n'y a pas vraiment une conscience du péché dans ce qu'elle raconte. Alors que toi-même, tu es en train de voir, tu sens que c'est du péché. Alors, au niveau de la personne, donc, comment pouvoir accompagner cette personne-là à comprendre et à connaître donc, ce rapport entre les péchés et sa propre conscience?
Alors, je pense que bon, ça dépend énormément des situations, mais de fait, il y a une pédagogie intérieure au sacrement, et en particulier, je pense, la question, ce qu'on dit, le sacrement du pardon transforme la personne attrite en une personne contrite. Ça suppose aussi un accompagnement pédagogique pour bien centrer la personne sur le mystère de l'amour du Christ grâce auquel elle reçoit le pardon, alors même qu'elle arrivait avec des dispositions spirituelles très incomplètes. Donc il y a de toute façon ce défi de toujours rappeler aux gens dans le sacrement que c'est au prix du sang du Christ. D'ailleurs, c'est dit dans la formule elle-même, mais il faut quelquefois le rappeler aux pénitents eux-mêmes. Hein, par la mort et la résurrection du Christ, il a réconcilié le monde avec lui. Et donc, attention, le prix par lequel tu es pardonné aujourd'hui, c'est la mort et la résurrection du Christ. C'est pas simplement un petit coup d'éponge bien commode grâce auquel je vais me sentir mieux après. Il y a le prix. Hein, comme dit saint Paul, hein, vous avez été racheté à grand prix. Voilà. Et si on ne prend pas conscience de ça, c'est vrai qu'il y aura plus de difficultés à ce que l'attrition devienne contrition, si jamais les choses étaient incomplètes. Ensuite, il y a aussi d'autres configurations qui ne sont pas toujours très très nettes et où il y a besoin d'une pédagogie ou d'une catéchisation interne au sacrement par rapport au sens du péché. Par exemple, vous avez des gens qui ont une approche purement légaliste du péché. On sent ça, par exemple, par rapport à certaines confessions pascales où la personne dit « je ne suis pas allé à la messe », mais en fait, elle n'a aucune intention d'y retourner à la messe. C'est simplement qu'on se confesse à Pâques pour se sentir mieux, qu'on dit les péchés qu'on a fait. Alors, comme l'Église, elle dit que de ne pas aller à la messe, c'est un péché, donc je vais dire que c'est un péché. Et puis, voilà. Et alors, il y a le moment où, quand même, il faut mesurer que si la personne en est là, et si elle n'a aucune intention de retourner à la messe, l'absolution sera invalide. Normalement, enfin. Sauf tout un tas de considérants sur le fait qu'il n'y a pas pleine connaissance et pleine liberté très souvent dans ces cas-là. Enfin, bon. Mais il peut y avoir un vrai risque d'invalidité de l'absolution. Et donc ça va être important peut-être dans ce cas-là de faire reprendre la mesure à la personne du fait que la question de la fréquentation à la messe n'est pas simplement dans le catalogue des obligations du bon chrétien, mais que c'est quelque chose qui relève de la relation vivante au Christ, du fait d'aller là où il nous appelle, ou de blesser son cœur parce qu'on n'est pas au rendez-vous qu'il nous donne. En général, moi je leur donne souvent l'exemple de la fiancée qui, par négligence, paresse ou autre, ne serait pas allée au rendez-vous qu'elle avait avec son fiancé. À ce moment-là, le fiancé est en droit d'en souffrir. Il dit, est-ce qu'elle m'aime vraiment, celle-là? Donc, tant qu'on en reste simplement au péché en tant que coup de canif dans une sorte de formalisme réglementaire, c'est vrai que on est encore relativement loin de l'authentique contrition. Et donc, c'est là qu'on voit à quel point la formation de la conscience à travers le dialogue entre le pénitent et le confesseur est quelque chose d'important. Alors ensuite, il n'y a pas de règle vraiment générale là-dessus, mais c'est pour le confesseur d'essayer de percevoir quelque chose de l'état subjectif de la personne et de ce qu'elle comprend, de ce qu'elle est en train de faire ou de ce qu'elle ne comprend pas, et puis d'essayer de lui donner les éléments compréhensibles qui lui aident à accéder à cette profondeur théologale du péché et du pardon. Mais voilà, je ne sais pas si on peut dire tellement d'autres choses, parce qu'ensuite, ça dépend tellement de l'état de la personne, de la maturité de sa conscience ou non, et de la perception que le confesseur peut avoir, que telle parole peut porter ou que telle autre, la personne risque de ne pas la comprendre du tout, etc. Bon, c'est, voilà. Bon, ben, si on en reste là puisqu'il est 11h, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation et à nous revoir si le bon Dieu nous prête vie et nous en donne l'occasion.